Alors, terrible drame survenu hier, donc, en après-midi à Québec. Hein, le service de police de la ville qui a retrouvé le petit corps de Rosalie, 2 ans, dans une poubelle dans le secteur Charlebourg à Québec. En soirée, les policiers ont procédé à l'arrestation d'Audrey Gagnon, la mère de la petite Rosalie. Elle doit comparaître aujourd'hui au palais de justice de Québec. Et pour avoir les toutes dernières informations, on va aller rejoindre notre journaliste pour Cogeco Nouvelles au Palais de justice de Québec, Jean-Simon Buis. Bonjour.
Salut Bernard.
Alors, fais le point, s'il te plaît, sur ce que l'on sait de cette affaire-là.
Oui, je vous rappelle le fil des événements hier. Hier matin, dans un parc de Charlebourg, on retrouve une poussette vide. Rapidement, les policiers vont faire un lien avec la disparition d'Audrey Gagnon, 23 ans, et de sa fillette de 2 ans, Rosalie Gagnon. Audrey Gagnon va être vue sur l'avenue Cartier, au centre-ville de Québec, vers 12h30. Plusieurs sources rapportent qu'elle était dans une pharmacie pour se procurer de la méthadone. Méthadone qui est ce produit pharmaceutique qu'on va donner à des toxicomanes qui consomment, par exemple, des opioïdes puissants, comme l'héroïne. Vers les 15h, on va trouver Audrey Gagnon dans un appartement, un logement de Charlebourg, en compagnie d'un autre homme. Les deux vont être interpellés par la police. À ce moment-là, il n'y a pas d'arrestation. On va libérer l'homme qui n'aurait pas de lien nécessairement avec l'affaire, mais on va garder en détention Audrey Gagnon et elle aurait mené les policiers vers une résidence privée de Charlebourg où est-ce que dans les bacs à déchets, on va retrouver la dépouille d'un enfant de 2 ans qu'on va identifier plus tard dans la soirée comme étant Rosalie Gagnon, 2 ans, et son décès a été constaté à l'hôpital. Bernard, c'est ce matin, vers 6h45, qu'on a confirmé du côté de la police de Québec qu'Audrey Gagnon avait été arrêtée officiellement pour le meurtre de Rosalie Gagnon. Elle s'est cependant infligé des blessures pendant sa détention au poste de police de Victoria. Donc, ça a retardé, vous comprenez, la comparution.
Est-ce que c'est une tentative de suicide?
On a assez peu de détails. Ce qu'on a du côté de la police, c'est qu'elle était désorganisée. On parle de blessures mineures, mais ça a tout de même demandé son transfert vers un centre hospitalier de Québec, où est-ce qu'elle a rencontré un médecin, et on a jugé qu'elle serait prête donc à comparaître vers 14h30. Elle est présentement au poste de police de retour, et on devrait la transporter sous peu au palais de justice, Bernard.
Qu'est-ce qu'on sait de la mère?
La mère, je vous ai parlé de la méthadone, donc ça sous-tend un historique de consommation, bien sûr, ce que ne veut pas confirmer la police. Présentement, on dit que c'est un élément d'enquête. Par contre, ce qu'on a, c'est ses antécédents judiciaires, qui sont nombreux pour une femme de 23 ans. On parle d'une peine de 6 mois pour voie de fait en 2015. On parle également d'une peine de 6 mois pour méfait en 2014. Et on parle de différents dossiers de bris d'engagement également. Donc, quelqu'un avec un pédigree passablement fourni, donc des antécédents judiciaires qui sont connu. La question qu'on peut se poser maintenant et qui a été posée par des analystes assez tôt dans l'affaire, est-ce qu'il y avait eu des plaintes auprès du DPJ, auprès du Centre jeunesse de Québec? Or, il y a des informations ce matin qui me démontrent que oui, des sources qui sont proches du dossier qui affirmaient qu'effectivement, il y avait eu des plaintes, il y avait eu un suivi, il y avait eu une enquête de la part de DPJ, mais finalement, la décision avait été prise de laisser l'enfant aux mains de sa mère biologique, Audrey Gagnon. La ministre responsable de la protection de la jeunesse, Lucie Charlebois, a été interpellée en mêlée de presse ce matin à l'Assemblée nationale. Je vous invite à écouter ce qu'elle avait à dire.
Il y a certainement des choses qui vont être examinées, mais pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est les reportages. On va attendre de voir la suite des choses. Il y a certainement des raisons qui ont mené la DPJ à laisser l'enfant à sa mère. Maintenant, je ne peux pas commenter ça. Je n'ai pas d'état de situation.
Mais allez-vous demander justement un état de la situation? Est-ce que vous avez
Vous savez que la ministre ne s'immisce pas dans les dossiers des gens directement. Il y a des gens qui sont autorisés à faire ça, puis il y aura certainement un examen de ce dossier-là. Moi, je ne suis pas dans le cas par cas. Je suis dans l'ensemble de l'œuvre. Je suis touchée, là. Je ne peux pas vous dire que ça me... J'en ai des petits-enfants de cet âge-là, puis j'ai le frisson à chaque fois que j'en parle.
À quelle hauteur est l'implication du DPJ? Quel a été le suivi exact? On n'a pas ces informations-là pour le moment, Bernard. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a des gens présentement qui se mordent les doigts, notamment un voisin qui nous a contacté ce matin au FM 93, qui était dans le bloc appartement où a été interpellé Audrey Gagnon et l'autre individu hier. Et la veille, le mardi soir, il avait entendu un fracas, un vacarme. Toute la soirée à côté, dans l'appartement d'Audrey Gagnon, c'était le bébé qui pleurait. Et le conjoint était sur place, Audrey Gagnon n'était pas là. Et tout le long de la soirée, le conjoint hurlait après le bébé, là, lui. Il lui criait des injures, était vraiment extrêmement dur. Et lorsqu'Audrey Gagnon est arrivé un peu plus tard dans la soirée, le conjoint lui aurait dit, je cite, « Ton crisse de bébé, je suis plus capable de l'entendre brailler. » Et là, le monsieur, le voisin, était sur le point de composer le 911, d'appeler la police, mais la situation se serait calmée. Mais là, ce matin, lorsqu'il se rend compte de la différence qu'il aurait peut-être fait en contactant les policiers, il se mord les doigts.
Évidemment, ce monsieur-là va devenir un témoin important dans l'enquête policière s'en suivre.
Il a été rencontré d'ailleurs hier, Bernard.
Très bien, Jean-Simon Buis. Va comparaître dans les prochaines heures, donc vous serez là pour nous. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Cogeco Nouvelles à Québec. Vous êtes présentement au Palais de justice. Merci beaucoup, Jean-Simon.
Au plaisir, Bernard.
Alors, la suite des choses, justement, c'est quoi? Puis, franchement, pour essayer de comprendre, je me suis tourné vers un policier qui en a fait des enquêtes pendant de nombreuses années. Il était au crime contre la personne et donc Sûreté du Québec. Beaucoup d'expérience. Jean-François Brochu, expert en affaires policières. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Jean-François, vous avez enquêté sur des meurtres d'enfants. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce que vous savez des circonstances entourant donc le meurtre de la petite Rosalie Gagnon?
Bon, ben écoutez, les éléments que j'ai pu observer hier et ce matin me permettent de dire que le meurtre a été commis dans un endroit et que parce que les policiers y effectuent une perquisition, il y aurait donc des éléments de preuve à aller y chercher. Et par la suite, bien sûr, on le sait, le corps aura probablement été transporté puisqu'il a été abandonné dans une poubelle, dans la cour d'une maison là, qui n'était pas habitée.
Est-ce que vous savez si Audrey Gagnon avait un dossier avec la Direction de la protection de la jeunesse pour la petite Rosalie?
Bien, selon ce que j'ai été en mesure d'apprendre, effectivement, la Direction de la protection de la jeunesse suivait madame.
Bon, je le disais, vous avez enquêté des meurtres d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner, avec votre expérience, là, éloignons-nous un petit peu du cas de Rosalie, les deux ou trois grandes catégories de meurtres d'enfants que vous avez enquêté, vous, dans votre carrière, là?
Oui, des contextes de meurtre suivi d'un suicide. Alors, la mère, le père ou les deux qui, dans un pacte de suicide, vont décider d'emmener leurs enfants avec eux. Des problèmes de santé mentale, de drogue et de dépression postpartum. Dépression postpartum, c'est le baby blues. Ça, par contre, on n'est pas là ici. Et également, il y a un autre point qui est intéressant, c'est dans les cas de nouveaux conjoints, dans les cas de mères célibataires ou à l'occasion de la reprise d'une vie, si on veut, conjugale, il arrive que l'enfant soit vu soit par le nouveau conjoint ou par la mère comme un obstacle justement à l'installation de cette nouvelle vie de couple-là. Et on a vu des homicides qui ont eu ça comme élément déclencheur.
Vous, comme policier, quand vous couvrez un meurtre comme ça, là, je veux dire, ça doit être c'est probablement la pire chose sur laquelle on peut enquêter, non?
Bien, c'est-à-dire que oui, effectivement, les premiers policiers qui sont arrivés sur les lieux, c'est certainement très difficile pour eux. L'analyse d'une scène de crime lorsque le corps de l'enfant, d'un enfant de cet âge-là ou d'un enfant en bas âge est présent, c'est extrêmement difficile, effectivement, pour les policiers. Parce qu'avant d'être policiers, ils sont aussi des pères de famille ou des mères de famille. On en a de plus en plus. Alors, effectivement, dans un contexte comme celui-là, c'est très difficile pour les policiers.
Alors, dites-nous comment vous y êtes arrivé? Comment est-ce qu'on, dans quel état d'esprit on se met? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'entre collègues, il faut s'entraider? Est-ce qu'on essaie de se détacher le plus possible, de pas penser à la vie que la petite a pu avoir, puis se concentrer seulement sur les circonstances de l'enquête? Dites-moi comment on finit par trouver la force psychologique pour passer au travers de ça?
Bien, c'est effectivement, comme vous le dites, de se concentrer sur la tâche. Il faut se concentrer sur le travail que l'on a à faire et ne pas penser justement à rien. En fait, ne penser à rien d'autre que ça. Parce qu'il ne faut pas laisser aller les émotions. Il ne faut pas laisser les émotions venir interrompre ou venir interférer avec la qualité ou la rigueur avec laquelle on doit, par exemple, traiter une scène de crime. Ou, écoutez, dites-vous aussi là, qu'il y a des pathologistes qui vont devoir faire une autopsie sur cet enfant-là. C'est aussi très difficile. Alors, dans ces contextes, là, c'est, il faut vraiment se mettre là, le cerveau à on sur la tâche à accomplir et essayer d'éviter de penser à autre chose. Puis les policiers qui ont eu à sortir cet enfant-là des vidanges, du corps à vidange, là, je veux dire, effectivement, là, c'est des situations extrêmement difficiles. On n'est pas vrai qu'on peut être préparé à ça.
Moi, la difficulté que j'aurais, je vais vous le dire, Jean-François Brochu, j'en ai une fille. Puis savez-vous quoi? Elle s'appelle Rosalie. Puis je vais vous dire... J'aurais beaucoup de difficultés à travailler sur une cause comme celle-là sans penser à ma propre fille. Et j'imagine que les policiers, que leur fille s'appelle Rosalie ou qu'elle ait un autre nom, à un moment donné, si tu as toi-même un enfant, ça doit être extrêmement difficile de ne pas penser à ton propre enfant.
À ton propre enfant ou dans mon cas, Bernard, c'était à mon petit enfant. Alors, j'ai vécu un cas, moi, où pour la première fois dans ma carrière, lorsque j'avais un petit-fils qui avait 2 ans, donc l'âge de Rosalie, j'ai dû intervenir sur une scène de d'homicide et le travail du chef d'équipe est d'aller vérifier le travail qui a été effectué par ses enquêteurs sur la scène pour s'assurer que la lecture de la scène correspond à la lecture qu'il en fait lui-même. Encore tout le monde s'entend sur la lecture de l'événement. Ben cette fois-là, J'ai dû retourner, j'ai pas été en mesure, et c'est là que j'ai pensé à prendre ma retraite. Mais alors, donc, c'est très difficile, effectivement, quand on a soi-même des enfants. Mais encore une fois, on a des policiers qui sont capables de, si on veut, de se concentrer tellement sur la tâche qu'on finit par faire le travail de façon aussi professionnelle que possible.
Ce qui était dur dans ce cas-là, c'était la vision d'horreur qui vous attendait?
Oui, ben c'est un enfant qui avait été tiré au fusil de calibre 12. Alors, effectivement, et de voir un petit enfant, un petit corps comme ça, c'est l'image qui m'est venue au cerveau, on ne peut pas contrôler ça. Alors, c'était ça. Mais ceci dit,
Est-ce qu'on a besoin d'aide après avoir vécu des moments comme ça?
Non, pas dans mon cas, ça n'a pas été ça. On se parle, puis écoutez, j'avais en 35 ans, j'en avais vu quelques centaines, là. Alors, à un moment donné, on fait la part des choses, mais effectivement, sur le coup, c'est assez difficile. Alors, j'imagine facilement là, la réaction que les policiers qui ont trouvé, qui se sont rendus rapidement, lorsque la madame, dans ce cas-là, lorsque la mère a indiqué aux policiers à quel endroit elle avait, passez-moi l'expression, elle s'était débarrassée du corps de sa fille. Les policiers sont rendus rapidement, ont envoyé une patrouille rapidement pour voir s'il n'y avait pas, parce qu'il y a toujours espoir, hein, on se dit toujours peut-être est-elle encore vivante. Alors les policiers se sont rendus rapidement pour sortir l'enfant du corps à vidange et de la remettre aux ambulanciers. Puis c'est malheureusement à l'hôpital où on a constaté malheureusement le décès.
Est-ce que les policiers qui travaillent sur des enquêtes comme celle-là, à un moment donné, peuvent vivre, puis je parle pas de vous, là, je parle de policiers que vous avez pu côtoyer ou dont vous avez entendu parler, est-ce qu'ils peuvent, à un moment donné, vivre quelque chose comme un syndrome post-traumatique puis avoir besoin, à un moment donné, d'en parler pour être capable de continuer puis de passer éventuellement à une autre enquête puis d'être capable de voir un autre corps? Puis vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, ben écoutez, Bernard, il est arrivé effectivement que des policiers, particulièrement en matière de techniciens en identité judiciaire, les gens qui ont le travail d'analyse de ces scènes de crimes-là à faire, parce qu'il faut savoir quand on enquête sur un homicide comme celui-là, il y a des gens qui ont la spécialité de faire la vidéo, les photos, les plans, les mesures. Alors ces policiers-là passent de longues heures souvent en présence d'un ou deux corps. Et donc, il arrive que certains policiers, oui, j'en ai connu, qui à un moment donné disent « je n'en peux plus, c'est suffisant, trouvez-moi un autre travail ». Oui, ça arrive.
Et en terminant, quand on se retrouve à interroger une mère qu'on soupçonne d'avoir assassiné son enfant, comment vous rentrez dans la salle d'interrogatoire, elle est assise à la table, qu'est-ce que vous vous dites?
Focus sur la tâche, Bernard. Encore une fois, c'est focus sur la tâche. Et il y a des policiers, il est arrivé que des policiers, des enquêteurs disent « bon, ben moi, je ne me sens pas en mesure de faire un travail correct dans ces circonstances-là. » Et on va se tourner vers quelqu'un d'autre, mais heureusement, les gens qui ont fait un cheminement dans l'enquête, hein, avant d'aller dans des comme ici à Québec, à la division des crimes majeurs ou à la Sûreté du Québec aux crimes contre la personne, des gens qui éventuellement aboutissent dans ce type de bureau ont généralement un passé qui leur permet justement d'être en mesure de travailler et de focusser sur la tâche et d'y aller avec rigueur et sont en mesure de faire un travail donc, et de laisser les émotions de côté.
Et que c'est pas évident. Jean-François Brochu, expert en affaires policières, enquêteur pendant de nombreuses années au crime contre la personne, justement, à la Sûreté du Québec. Toujours un plaisir, Jean-François. Merci.
Faites bienvenue. Bonne journée.
Après la pause, on vous parle de cette école Nouveau Genre. C'est un projet, en fait, qui veut voir le jour à Montréal, dans le quartier Rosemont. C'est une école publique, là. On parle pas d'une école privée, une école publique, mais une école publique qui ne relèverait pas de la commission scolaire. Puis là, ça, c'est révolutionnaire, là. Comprenez-vous? Là, tout le monde là, monte aux barricades pour dire « C'est-tu assez effrayant, une école publique qui relèverait pas de la commission scolaire? Oh mon Dieu, dans quel monde allons-nous vivre? » Tu sais, des fois, là, tu te dis « On peut-tu essayer quelque chose de neuf? » Innover, essayer un nouveau modèle. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le modèle existant, mais on va essayer quelque chose de nouveau. Oh là là! Tu sais, c'est... Non, non. C'est juste non. Niet, nada, on veut pas. Et mot, t'as dit. Après la pause.